La maternité. Antibes, clinique Jeanne d'Arc, le 9 octobre 1974. Francis Biancardini poussa doucement la porte de la chambre. Les rayons orangés du soleil automnal se déversaient à travers les portes-fenêtres ouvrant sur le balcon. En cette fin d'après-midi, le calme de la maternité n'était troublé que par la rumeur lointaine de la sortie des écoles. Francis s'avança dans la chambre. Ses bras étaient chargés de cadeaux. Un ours en peluche pour son fils Thomas. Un bracelet pour Annabelle. Deux paquets de biscottis et un pot de cerises amarena pour les infirmières qui s'étaient si bien occupées d'eux. Il posa ses présents sur le plateau à roulettes en essayant de faire le moins de bruit possible pour ne pas réveiller Annabelle. Lorsqu'il se pencha sur le berceau, le nouveau-né le dévisagea avec son regard neuf. « Comment tu vas, toi ?» Il prit le bébé dans ses bras avant de s'installer sur une chaise et d'apprécier ce moment à la fois magique et solennel qui suit la naissance d'un enfant. Il éprouvait une joie profonde, matinée de regrets et d'impuissance. Lorsqu'Annabelle quitterait la clinique, elle ne rentrerait pas avec lui à la maison. Elle retournerait auprès de son mari, Richard, qui serait le père légal de Thomas. Une situation inconfortable, dont il était bien obligé de s'accommoder. Annabelle était la femme de sa vie, mais c'était aussi un être hors norme. Une grande amoureuse qui avait une vision très personnelle de l'engagement et qui mettait l'amour au-dessus de tout. Francis avait fini par se laisser convaincre de ne pas révéler leur relation. « C'est aussi la clandestinité de notre amour qui en fait le prix », lui assurait-elle. Exposer son amour aux yeux du monde le rend commun et lui fait perdre son mystère. Lui y voyait un autre avantage, camoufler ce qu'il avait de plus précieux à ses ennemis potentiels. Inutile de montrer au monde ce à quoi nous tenons vraiment, car cela nous rend trop vulnérables. Francis soupira. Le personnage de blaireau qu'il s'amusait à jouer était une mascarade. À part Annabelle, personne ne le connaissait vraiment. Personne ne savait la violence et l'instinct de mort qu'il portait en lui. Cette fureur s'était déchaînée pour la première fois en 1961, à Montaldiccio, lorsqu'il avait 15 ans. C'était un soir d'été, près de la fontaine de la place. Les jeunes du village s'étaient alcoolisés. L'un d'eux s'était approché trop près d'Annabelle. Elle l'avait repoussé plusieurs fois, mais le type avait continué à la toucher. Francis était jusqu'alors resté à l'écart. Les gars étaient plus âgés que lui. C'étaient des peintres et des vitriers de Turin qui étaient venus construire et réparer des serres dans une propriété du village. Puis, quand il avait compris que personne n'interviendrait, il s'était rapproché du groupe et avait demandé au type de déguerpir. À cette époque, il n'était pas très grand et pouvait même donner l'impression d'être un peu lourdeau. Lorsqu'on lui avait ri au nez, il avait attrapé l'agresseur à la gorge et lui avait balancé un crochet au visage. Malgré son physique, il avait une force de taureau et était habité par la rage. Une fois qu'il avait commencé, il avait continué à frapper le jeune ouvrier sans que personne parvienne à lui faire lâcher sa proie. Depuis tout petit, il avait des problèmes d'élocution qui l'avaient toujours dissuadé de parler à Annabelle. Les mots restaient bloqués dans sa gorge. Alors ce soir-là, il parla avec ses poings. En fracassant la tête de ce pauvre type, il envoyait un message à Annabelle qui disait « Avec moi, personne ne te fera jamais de mal. » Lorsqu'il en eut fini, le type était inconscient, le visage en sang, la bouche pleine de ses propres dents. L'affaire avait causé un grand émoi dans la région. Dans les jours qui avaient suivi, les carabiniers avaient cherché à interroger Francis, mais il avait quitté l'Italie pour la France. Lorsqu'il avait retrouvé Annabelle, des années plus tard, elle l'avait remercié de l'avoir défendue, mais elle lui avait avoué qu'elle avait peur de lui. Il s'était rapproché malgré tout, et grâce à elle, il était parvenu à domestiquer sa violence. Alors qu'il berçait son fils, Francis se rendit compte que le bébé s'était endormi. Il osa déposer un baiser sur le front de Thomas. Douce et enivrante, l'odeur du bébé le bouleversa, lui rappela à la fois des effluves de pain au lait et de fleurs d'oranger. Entre ses bras, Thomas était minuscule. La sérénité qui émanait de son beau visage était porteuse de promesses pour l'avenir. Mais cette petite merveille paraissait si fragile. Francis se rendit compte qu'il pleurait. Pas parce qu'il était triste, mais parce que cette fragilité le terrifiait. Il essuya une larme qui coulait sur sa joue, et avec toute la délicatesse dont il était capable, reposa Thomas dans son berceau, sans le réveiller. Il ouvrit la porte coulissante de la baie vitrée et sortit sur la terrasse tropézienne de la chambre d'hôpital. Il tira son paquet de gauloises de la poche de son blouson, alluma une tige et, sur un coup de tête, décida que ce serait sa dernière cigarette. À présent qu'il avait charge de famille, il devait se préserver. Pendant combien de temps les fils ont-ils besoin de leur père? 15 ans? 20 ans? Toute leur vie? Alors qu'il inhalait la fumée âcre du tabac, il ferma les yeux pour mieux profiter des derniers rayons de soleil qui se frayaient un chemin dans le feuillage d'un grand tilleul. La naissance de Thomas l'investissait d'une responsabilité lourde, mais qu'il était prêt à exercer. Élever un enfant, le protéger, était un combat de très longue haleine qui nécessitait une vigilance de tous les instants. Le pire pouvait survenir sans s'annoncer. Il ne fallait jamais relâcher son attention. Francis ne se déroberait pas. Il avait le cuir épais. Le bruit de la baie qui coulissait sortit Francis de ses pensées. Il se retourna pour voir Annabelle qui avançait vers lui, le sourire aux lèvres. Lorsqu'elle se réfugia dans ses bras, il sentit toutes ses craintes s'évaporer. Alors que la brise tiède les enveloppait, Francis se dit que tant qu'Annabelle resterait auprès de lui, il saurait faire face à tout. La force brute n'est rien sans l'intelligence. Ensemble, ils auraient toujours un coup d'avance sur le danger.